Les aventuriers.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás.
Quizás, quizás.
Les aventuriers. Une émission de quizás, Fabienne Chauvière.
Quizás.
Vincent Albouy, entomologiste amateur, passionné de nature et notamment d'insectes.
C'est parce qu'il aime vraiment la nature que Vincent Albouy n'a jamais souhaité travailler dans un laboratoire. Il ne voulait pas passer sa vie à trouver des solutions pour lutter contre les insectes. Il ne voulait pas non plus les épingler pour exposer sous verre des collections. Les insectes, il les aime et vivants. Vincent Albouy est un chercheur à l'ancienne qui peut être ébloui par le spectacle d'une maman perce-oreille soignant ses œufs. Actuellement, ce naturaliste est à la recherche d'une abeille qui tisse son nid avec des pétales de coquelicot. Et il n'y a aucun doute, il traversera l'Hexagone depuis le Poitou-Charentes où il a élu domicile il y a quelques années pour aller admirer ces brodeuses incroyables si vous lui en signalez l'existence. Il a déjà été pendant 45 ans à la recherche d'un insecte avant de le trouver à quelques kilomètres de chez lui. Vincent Albouy cultive une relation passionnelle avec le monde des insectes. Ils sont petits, parfois minuscules, mais ils ont su s'adapter à tous les milieux. Les deux tiers des espèces animales connues à ce jour sont des insectes. Vincent Albouy a été président jusqu'à peu de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, une association de protection et de recherche sur les insectes. Cet entomologiste inclassable écrit beaucoup, mais ce qui l'apprécie par-dessus tout, c'est chausser ses bottes, enfiler sa vareuse, se promener et observer ce petit monde qui grouille sous sa loupe. Vincent Albouy, spécialiste des perce-oreilles, vient de publier « Histoire remarquable des insectes » aux éditions de Lachaud et Niesley. Vous êtes donc, Vincent Albouy, un entomologiste amateur, mais vous avez commencé par des études.
J'ai fait des études scientifiques, effectivement, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai finalement décidé de ne pas devenir entomologiste professionnel. Et le doctorat que j'avais commencé sur les dermaptères de France, c'est-à-dire les perce-oreilles de France, ce qui devait être ma thèse, c'est fini en un livre, ce qu'on appelle une faune, donc la faune de France des dermaptères, que j'ai coécrit avec mon professeur, le professeur Cossanel.
Et depuis, il y en a eu des livres ?
Depuis, il y en a eu des livres. Ça a été le premier, effectivement. J'en ai écrit plusieurs autres depuis, toujours sur la nature, les insectes, et notamment tout ce qui est commun, banal. Je m'intéresse plus aux espèces communes ou autrefois communes, malheureusement, qu'aux raretés et aux espèces, disons, exceptionnelles.
Et aujourd'hui, s'il ne pleut pas trop, s'il n'y a pas trop de vent, vous partez avec votre petit matériel à la main et forcément, vous allez observer, vous allez collecter.
Je vais observer, éventuellement collecter quand je veux une identification plus précise, mais c'est pas tous les jours que je suis obligé de prélever un insecte, surtout maintenant que je commence à en connaître pas mal. Et même autour de la maison de la radio, je fais de l'entomologie urbaine, comme j'appelle ça. Au mois de juin dernier, j'étais venu pour une émission sur France Culture et je me rappelle, j'avais vu 4 espèces différentes d'abeilles solitaires sur les fleurs en bas de la maison de la radio. Et j'avais vu une belle colonie de gendarmes sur les troncs du tilleul de la rue Mangin.
Car il n'y a pas besoin d'être à la campagne pour observer les insectes.
Non, c'est une déformation professionnelle, entre guillemets, chez moi. Dès que je suis quelque part, je regarde qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui peut vivre. Dans une ville comme Paris, en fait, c'est essentiellement des oiseaux et des insectes qu'on va pouvoir observer.
Qu'est-ce que vous aimez chez les insectes ?
Ce que j'aime, c'est qu'il y en a beaucoup, très différents, et que ça se renouvelle tout le temps. Donc c'est un spectacle sans cesse renouvelé. Et puis il y a un peu le plaisir du lecteur de romans policiers, c'est-à-dire qu'on est attiré par un détail, on voit un insecte. Qui est-il ? Comment vit-il ? Pourquoi est-il là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc il y a tout ça qui se met en place. Et c'est vraiment, moi, l'insecte vivant et l'insecte en train de bouger qui m'intéresse. Je suis un passionné des mœurs des insectes.
Vous n'avez jamais fait de collection d'insectes épinglés sur des tableaux ? Surtout
non,
pas.
Quand j'étais gamin, j'en ai ai épinglé quelques-uns. De toute façon, on commence comme ça. Ça m'a assez vite passé. Après, quand j'ai fait mes études sur les dermaptères, j'ai bénéficié d'une chance exceptionnelle puisque j'avais accès aux collections nationales, aux collections du Muséum d'histoire naturelle. Donc là, il y avait plus de 200 boîtes de perce-oreilles, donc j'avais de quoi m'occuper sans avoir besoin de les remplir moi-même.
Et quand vous étiez petit garçon, vous avez commencé à vous passionner pour un insecte qui s'appelle le chalicodone des murailles. Vous l'avez cherché pendant des années et des années. Et c'est là que tout a commencé, en fait.
Oui, quand j'étais tout petit, je m'intéressais à ce qui se passait dans le jardin de mes parents. J'ai été élevé en banlieue parisienne. Ils avaient un jardin, un grand jardin à l'époque. Et cet intérêt pour la nature en général s'est cristallisé vers l'âge de 10 ans à la lecture des souvenirs entomologiques de Fabre sur les insectes. Et dans ces souvenirs entomologiques, il y a un chapitre sur le chalicodome des murailles, dont il décrit les mœurs en Provence, mais il commence par citer Réaumur, qui au XVIIIe siècle a étudié ces chalicodomes dans ce qui est aujourd'hui Paris intramuros. Je me suis donc dit, puisqu'il y en avait à l'époque à Paris, il doit bien y en avoir encore maintenant en banlieue. Et donc c'est à peu près en 71-72 que j'ai commencé à le chercher. Et je n'ai finalement fini par le trouver qu'en 2009, et c'était bien loin de Paris, puisque c'était en Dordogne.
Alors, le chalicodome, qu'est-ce que c'est ?
Le chalicodome, c'est une abeille solitaire, qu'on appelle des murailles, parce que c'est une abeille maçonne qui construit son nid sur des supports durs, des galets, ou alors des falaises. Et évidemment, les murs des maisons, notamment les murs en pierre de taille, sont des falaises artificielles qui lui convenaient beaucoup. Évidemment, on ne les trouve plus dans Paris depuis belle lurette.
Mais la quête de ce chalicodome, c'était quoi ? C'était un défi ou vous cherchiez un truc particulier ?
Mon intérêt pour les insectes, c'est que j'ai lu Fabre qui raconte plein d'histoires.
Et alors Fabre, le grand entomologiste.
Le grand entomologiste, Jean-Henri Fabre, 1823-1915, donc 19e siècle, et qui raconte plein d'histoires. Et lui, il décrit des insectes vivants. Et donc, ce qui m'a passionné, c'est de revoir de mes yeux ce qu'il décrivait dans ce livre. Et donc, j'ai cherché autour de moi ces insectes. Et celui-là, évidemment, comme il a décrit beaucoup de faune de Méditerranée, je ne les cherchais pas, je ne pouvais pas les trouver. Et celui-là me semblait particulièrement intéressant puisqu'il était présent à Paris. Et je me souviens avoir arpenté ma banlieue Est, dans la vallée de la Marne, à vélo pendant plusieurs années, à la recherche de cette bête. Je ne l'ai pas trouvée, j'ai trouvé plein d'autres choses, ça a été très formateur pour moi. Mais ce chalicodome, en fait, entre-temps, était devenu très rare. Et je l'ai trouvé en 2009. Pas de moi-même, mais c'est un copain. J'ai fait un article un jour dans une revue entomologique dans lequel je disais « ça fait 40 ans que je le cherche et je ne l'ai toujours pas trouvé ». Et un ami que je connaissais bien m'a envoyé un mot en me disant « mais moi je sais où il y en a, j'ai fait un repas d'anciens avec mes anciens copains du service militaire en Dordogne et j'ai vu à tel endroit une colonie, effectivement j'y suis allé ». Alors moi j'habite en Charente-Maritime, donc la Dordogne, cet endroit c'est à 80 km de chez moi.
Qu'est-ce que vous avez vu ?
Ben, au bout de 40 ans, j'ai vu ce que Fabre a décrit. Donc j'ai refait ses observations. C'est une abeille, alors l'abeille domestique que tout le monde connaît, ramène son pollen, c'est des petites boulettes aux pattes. Donc on voit bien ces trucs de couleur aux pattes arrière. Le chalicodome, lui, il a une brosse ventrale de poils et il met son pollen sur cette brosse. Donc il a un ventre très coloré par le pollen. Alors il fait un nid de terre. Il va d'abord construire une cellule en terre, donc on le voit maçonner, j'ai pris plein de photos, c'est intéressant. On le voit en train de maçonner sa cellule, puis une fois qu'il a maçonné la cellule, il accumule du nectar et du pollen. Donc il arrive, il plonge la tête la première dans la cellule, il va dégorger le nectar, puis il se retourne, il rentre en marche arrière, il va brosser son pollen sur le nectar, ça fait une sorte de pâté qui va nourrir la larve. Quand c'est fini, il pond. Une fois qu'il a pondu, il ferme la cellule. Après, il en fait une, deux, trois à côté. Puis après, il recouvre tout de terre et ça donne une sorte de boule, comme si un gros morceau de terre s'était écrasé sur le mur. Et ça reste pendant 11 mois comme ça. Et l'année suivante, en fin avril, début mai, hop, les chalicodomes ressortent. Et pendant un mois, il ne faut pas les louper, ils vont être actifs.
Et donc, c'est au mois de mai, en 2009, que vous avez fait cette redécouverte. Après 45 ans de quête, vous étiez dans quel état ?
Je dois dire que comme j'étais prévenu à l'avance, je ne suis pas tombé par hasard dessus, il n'y avait plus l'excitation de si d'un seul coup j'avais découvert à l'improviste. Mais ça a été quand même très émouvant pour moi parce que c'était devenu vraiment un insecte mythique et je me demandais si j'allais réussir à le voir avant la fin de ma vie. J'ai réussi, mais je dois reconnaître qu'à 10 ans près, peut-être que dans quelques années, cette colonie aura disparu, parce que depuis 5-6 ans que je la suis, je vois que ça diminue d'année en année, et c'est pas, malheureusement, c'est pas en bonne forme, cette espèce.
C'est pas propre au calicodome. Tous les insectes sont menacés aujourd'hui ?
Beaucoup d'insectes sont menacés, je dirais pas tous, parce qu'il y en a qui profitent de la situation. L'ensemble des populations d'insectes régressent en grande quantité, et les seuls qui survivent, qui arrivent à proliférer, ce sont plutôt les insectes à problème. Donc par exemple, les abeilles domestiques ou solitaires subissent des dégâts, notamment à cause des pesticides. Le puceron du pêcher, qui est un des pucerons qui pose le plus de problèmes aux agriculteurs, c'est une espèce qui commence à devenir résistante aux néonicotinoïdes, c'est-à-dire les molécules les plus efficaces contre les insectes actuellement, celles qui causent en partie la régression des abeilles. Et ce puceron qui est visé par ces néonicotinoïdes, lui, va continuer à prospérer parce qu'il résiste.
Les populations d'insectes s'effondrent et il paraît même qu'on en trouve beaucoup moins sur les pare-brises écrasés.
Il y a 30 ans, quand je faisais 100 km, je devais m'arrêter toutes les 2 heures pour nettoyer le pare-brise des insectes écrasés. Maintenant, je fais 500 km et j'ai 4 impacts d'insectes. Mais un ami a émis une hypothèse qui serait que c'est l'aérodynamisme des voitures qui se serait amélioré et qui empêcherait les collisions. Alors, il y a des faits qui ne trompent pas. Par exemple, les hirondelles sont devenues beaucoup plus rares. 80% de régression des hirondelles. Ce sont des animaux qui mangent uniquement ce qu'on appelle le plancton aérien, c'est-à-dire les insectes volants. Et si elles sont moins nombreuses, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'insectes volants.
Drifting on the waves, going with the flow.
Trapped, c'était Yael Naïm sur France Inter. Vous êtes à l'écoute des Saventuriers. Les insectes s'attaquent, paralysent leur proie, s'offrent en repas à leurs petits. Certains sont même la terreur des mygales. Des abeilles leur coupent les pattes et les enterrent vivantes. Pour l'entomologiste Vincent Albouy, les insectes sont surtout nos amis. Ils nettoient, régulent et participent à la chaîne alimentaire. Sans eux, nous n'entendrions plus la mésange qui a besoin des larves pour se nourrir. Vincent Albouy, on a dû vous poser la question 100 fois, 1000 fois, quel est le rôle des insectes? Et là, qu'est-ce que vous répondez?
Je réponds quels sont les rôles des insectes, puisqu'il y en a plusieurs. Je les découpe, ces rôles, en 5 grandes parties. La première partie, c'est ce que j'appelle les végétariens, qui mangent des plantes. Alors, c'est ceux qui nous ennuient, entre guillemets, puisqu'ils mangent la même chose que nous. Mais leur rôle dans la nature, c'est de limiter l'expansion des plantes. Et le problème de l'agriculture, c'est que justement, elle fait des hectares et des hectares de la même plante. C'est ce qui fait que ça favorise ces végétariens, comme par exemple le puceron du pêcher. C'est pour ça qu'il y a certaines techniques de culture biologique qui vont faire des mélanges d'espèces, des choses comme ça, pour diminuer cet impact néfaste de la monoculture qui favorise trop les végétariens. Donc premier rôle, les végétariens, ils limitent l'expansion des plantes trop dominantes. Deuxième rôle, ce sont toujours des végétariens, mais spécialisés, c'est les pollinisateurs, qui, eux, ne vont pas détruire les plantes, mais ils vont consommer le nectar et un peu de pollen et vont favoriser, au contraire, leur reproduction en améliorant la fécondation des fleurs.
Donc, deuxième rôle, la pollinisation.
Troisième rôle, alors on est toujours dans les consommateurs de végétaux, mais aussi d'animaux. C'est ce qu'on appelle les détritiphages. Donc, les feuilles mortes tombent au sol. On va avoir tout un tas d'insectes qui vont commencer à les consommer. Ces insectes sont le premier étage d'une pyramide qui passe ensuite aux vers de terre, puis aux bactéries, et qui font que les molécules très complexes d'un tissu végétal va se transformer de nouveau en sels minéraux qui seuls sont absorbés par les racines des plantes. Une molécule de sucre, par exemple, une plante ne peut pas l'absorber. Elle va la synthétiser à partir de sels minéraux, d'eau et de gaz carbonique et d'énergie solaire. Donc eux, ils sont garants. C'est le premier étage d'un processus qui est garant de la fertilité naturelle des sols. Donc troisième rôle, participer à la fertilité naturelle des sols en recyclant et en étant aussi les éboueurs de la nature puisqu'ils font disparaître les matières mortes, notamment les cadavres, les crottes, tout ce qui est feuilles mortes, etc.
Un quatrième chapitre.
Alors là, c'est ce qu'on appelle les parasites et les prédateurs et les parasites. C'est-à-dire ceux qui mangent d'autres insectes. Et eux, ils jouent le même rôle que les végétariens, mais sur l'ensemble des insectes, c'est-à-dire ils vont contrôler les populations d'insectes végétariens, notamment, qui pourraient devenir trop nombreux. Pour reprendre l'exemple de la monoculture, un grand champ de choux, vous allez avoir la pierrite du chou qui va pulluler parce qu'elle a plein de choux à manger. Mais à un moment donné, ces pierrites vont devenir tellement nombreuses que le même mécanisme va se mettre en œuvre et vous allez avoir des guêpes parasites qui vont parasiter jusqu'à 99,99% des chenilles. Et donc, rétablir la situation à un niveau plus favorable aux plantes.
Vincent Albouy, je vous suis et vous avez dit, moi je vois 5 rôles.
Alors le cinquième rôle et le dernier, je le mets toujours pour que les gens se rendent compte que c'est une grande importance, c'est que toute cette masse d'insectes, les insectes c'est la moitié des espèces vivantes connues, c'est les 3/4 des animaux, uniquement dans les milieux terrestres, donc on oublie les océans, donc vous voyez que sur Terre c'est énorme, et bien c'est à la base des chaînes alimentaires, et très nombreux animaux en dépendent. Dans un jardin par exemple, vous ne pouvez pas avoir de lézards, vous ne pouvez pas avoir de grenouilles, vous ne pouvez pas avoir d'oiseaux. Comme les mésanges, des insectivores, mais aussi comme les moineaux, des granivores, parce que les moineaux nourrissent leurs jeunes obligatoirement avec des insectes. Vous ne pouvez pas avoir de hérissons, de musaraignes, de chauves-souris sans les insectes. Donc leur cinquième rôle, c'est de nourrir toute une faune de vertébrés qui sont aussi à la fois indispensables à l'écosystème de la nature et qui sont aussi ceux qui nous font plaisir à voir quand on voit beaucoup plus facilement des oiseaux et on entend beaucoup plus facilement des oiseaux qu'on voit des insectes microscopiques qui sont dans la litière ou sur le feuillage.
Alors, vous avez été jusqu'à il y a quelques semaines président de l'Office pour les insectes et leur environnement. Dans cet office, on fait des études sur les insectes. Quelles sont les recherches qu'on mène actuellement à l'Office pour les insectes et leur environnement, à l'OPI?
C'est une association donc qui a comme but social la connaissance et la protection des insectes. Donc il y a à la fois des activités pédagogiques, mais pour la recherche, c'est plutôt des études, notamment sur les espèces menacées. Donc soit ça peut être des espèces qui sont légalement protégées. Donc il y a des opérations récentes qu'on a fait autour de certaines espèces de papillons protégés ou les libellules. Et on a aussi des études sur les pollinisateurs sauvages, où on va faire un grand plan national d'action avec le ministère. Vous avez aussi des études qui sont des études d'inventaire pour connaître la biodiversité, les insectes étant très nombreux, souvent avec des partenaires qui sont des collectivités locales.
Et vous, quel est le sujet qui vous passionne toujours ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme je le disais, les insectes communs. Et ce qui me passionne et qui me chagrine à la fois, c'est ce problème de la régression de ces insectes communs. Puisque avec 45 ans de recul, je vois très nettement cette régression des insectes.
C'est facile de mobiliser le grand public autour de l'éléphant ou de la baleine, mais autour d'un petit insecte qu'on ne connaît même pas. C'est pas facile.
Même si c'est encore très loin d'être satisfaisant, c'est quand même plus facile qu'il y a 25 ou 30 ans. Il y a 25 ou 30 ans, quand on disait qu'il faut protéger les insectes, on était vraiment regardés comme des martiens. Maintenant, il y a des opérations de sciences participatives pour compter les papillons dans son jardin. La notion de nichoir à insectes a fait son trou à côté de la notion de nichoir à oiseaux. Mais ça reste encore très marginal. Et surtout, le travail est immense parce que vous avez 400 espèces d'oiseaux en France, vous avez 40 000 espèces d'insectes. On connaît beaucoup moins bien les insectes qu'on connaît les oiseaux, donc on n'a pas aussi appréhendé et tous les problèmes et toutes les solutions possibles.
Et vous les connaissez toutes, ces 40 000 espèces ?
Loin de là, si j'en connais quelques centaines, c'est déjà suffisant. D'abord parce que 80% sont très petites, donc on ne les voit pas facilement. Moi, en plus, je me promène dans la journée, donc je ne vais pas voir toutes celles qui vivent que la nuit. Je ne vais pas voir toutes celles qui vivent dans le sol, qui vivent sous les pierres. Donc il y a plein d'espèces qui m'échappent aussi par ça. Donc entre la taille et les mœurs, ça restreint. En plus, c'est 40 000 pour toute la France. Donc en région méditerranéenne, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup moins dans le nord, il y en a beaucoup moins en montagne, mais c'est des espèces différentes. Donc voilà, on ne peut pas tout connaître. Pour les perce-oreilles, que je connais très bien, c'est 20 espèces en France.
Qu'est-ce que vous aimez regarder quand vous vous promenez ?
Je regarde tout et j'ai mon œil, c'est une sorte de caméra qui balaye. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, hop, ça m'arrête.
Par exemple ?
Je me promène, puis d'un seul coup, je vais m'arrêter, je vais fixer mon regard et je vais voir qu'il y a quelque chose qui ressemble à une feuille morte, mais qui n'est pas exactement une feuille morte. Et ça va être un papillon posé sur un tronc ou ça va être une chrysalide. Puis des fois, c'est bien une feuille morte d'ailleurs. Le cerveau a envoyé un message, mais c'est bien une feuille morte. Ou alors, un papillon que je connais bien, je le vois voler, puis là, je le verrai, il a une attitude bizarre. Donc je vais m'approcher et je vais me rendre compte qu'en fait, il vient d'être capturé par une araignée sur une fleur et c'est les battements d'ailes de l'agonie. Donc c'est tous ces petits trucs qui changent de l'ordinaire qui vont me mettre la puce à l'oreille et c'est là que je vais avoir la curiosité d'aller voir de plus près.
Et vous aimez les regarder, se nourrir, chasser ?
Voilà, c'est de comprendre comment ils se comportent et puis de comparer. Puis j'aime bien, comme je lis aussi beaucoup, donc j'ai une connaissance des insectes par la littérature, notamment la littérature scientifique, donc de retrouver dans la nature ou dans mon jardin, ce que j'ai lu dans les livres, c'est toujours intéressant. Je fais un peu le Sherlock Holmes de la nature en me refaisant des films dans ma tête en fonction des indices.
Et vous, l'entomologiste amateur, vous ne regrettez pas une carrière d'entomologiste professionnel dans un muséum, par exemple ?
La question s'est posée pour moi et finalement j'ai répondu non, puisque j'ai décidé d'arrêter mes études là-dessus, essentiellement parce que cette entomologie qui me plaît, qui est une entomologie de l'insecte vivant, de l'insecte commun, ne correspondait absolument pas aux carrières possibles. On peut devenir entomologiste professionnel. À mon époque, il y avait très peu d'enquête de terrain, d'inventaire comme il y a maintenant, mais c'était surtout soit de l'entomologie agricole, donc c'était plutôt apprendre à les tuer qu'à les observer, de l'entomologie vétérinaire, ou alors utiliser l'insecte comme modèle dans des expériences scientifiques. Ça correspondait, même au muséum, les mettre dans une boîte, finalement, c'était pas mon truc à moi, donc ça correspondait pas à mes envies, et je me suis dit, je deviens amateur, c'est une passion, et je gagne ma vie autrement, et je n'ai jamais regretté ce choix.
La drosophile, bête de laboratoire, ça vous embête ?
Ah, pas du tout, c'est très bien que la drosophile soit bête de laboratoire, vu toutes les avancées qu'on a eues grâce à elle. Il y a une phrase de Buffon qu'il a écrite à Réaumur qui dit à peu près qu'une mouche ne doit pas prendre plus de place dans la tête d'un naturaliste qu'elle n'en occupe dans la nature. Sous-entendu, c'est rien dans la nature, donc il ne faut pas s'en occuper. L'éléphant, c'est mieux, la baleine, c'est mieux. En fait, c'est grâce à la drosophile qu'on a maintenant des médicaments performants, qu'on a des récoltes beaucoup plus abondantes qu'autrefois, alors que grâce à l'éléphant, on a rien.
Tête en l'air, c'était Jacques Higelin. Quelle que soit l'apparence d'un insecte, son corps est bâti selon un modèle unique. Un insecte n'a pas de colonne vertébrale, pas d'os. C'est sa peau qui maintient son corps comme une armure. Parmi les insectes primitifs, les perce-oreilles, dont Vincent Albouy est un remarquable spécialiste. Vincent Albouy, vous avez une tendresse toute particulière pour un drôle d'insecte, c'est le perce-oreille.
Oui, le perce-oreille, c'est les dermaptères, donc ma spécialité originelle en entomologie. Si je m'y suis intéressé, c'est à l'origine parce qu'il a un comportement assez intéressant. Les femelles soignent leurs œufs et leurs larves. Au 19e siècle, on parlait d'amour maternel. Maintenant, on parle de soins aux œufs et aux larves. C'est plus neutre et ça reflète mieux la situation. Et donc cet insecte attachant, qui par ailleurs s'appelle perce-oreille parce qu'il a deux pinces à l'extrémité de l'abdomen, a longtemps été considéré comme une espèce substantielle, c'est-à-dire elle préfigurait, c'était un comportement évolué entre guillemets, qui préfigurait les sociétés d'insectes très évoluées que sont les fourmis, les abeilles, les guêpes, les termites, qui soignent effectivement leurs jeunes. C'est une des caractéristiques de la société. Et en fait, les études plus récentes ont montré qu'au contraire, c'est un comportement archaïque, c'est-à-dire que les premiers insectes probablement s'occupaient de leurs œufs et de leurs larves, que ce comportement s'est perdu parce que des adaptations ont permis de ne pas avoir à s'occuper des jeunes, des œufs plus résistants, des larves qui savent se débrouiller toutes seules, etc. Mais c'est resté dans des groupes très divers, comme les perce-oreilles, certaines punaises, etc.
Mais que font les mamans pour leurs œufs et pour leurs larves ?
Alors, la femelle de perce-oreille s'occupe de ses œufs en les nettoyant très régulièrement, parce que l'œuf a une paroi très fine pour pouvoir absorber de l'eau. Si elle n'absorbe pas d'eau, l'embryon ne se développe pas. Et pour que ça puisse absorber de l'eau, il faut que l'air soit saturé en humidité, ce qui veut dire moisissure champignon. Donc, des œufs abandonnés à eux-mêmes, soit il fait trop sec, ils ne se développent pas, soit il fait suffisamment humide, mais ils moisissent. Donc, il faut que la mère sans cesse les nettoie pour que les spores de champignons soient détruits. Après, à la naissance, les premiers stades de la larve, les mères s'en occupent plus ou moins longtemps selon les espèces, soit en les protégeant, soit des fois en leur apportant de la nourriture ou en les amenant vers la nourriture. Il y a même des femelles d'espèces de montagne qui meurent à ce moment-là et leur cadavre sert de première nourriture aux larves. Donc vous voyez, c'est le sacrifice ultime, oui, hein, la mère qui se laisse dévorer par ses enfants.
Je vous écoute, Vincent Albouy, et je vous imagine à quatre pattes, une loupe à la main peut-être, en train d'observer ça. C'est comme ça que ça se passe ?
Oui et non. À quatre pattes, avec la loupe, c'est pour trouver le nid. Puis après, on le prélève, on le met dans un petit vivarium. Et puis on regarde ça tranquillement à la maison. C'est beaucoup plus confortable sur une chaise.
Vincent Albouy, dans votre livre « Histoire d'insectes remarquables », vous vous attardez longuement également sur le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est une petite bête qui fait 1 mm.
Même pas, 0,4 mm.
Et qui a presque changé la face de l'Europe ?
Qui a en tout cas changé des paysages de régions entières en France. Donc le phylloxéra, c'est un puceron. C'est un puceron qui vit sur les racines de la vigne et de la vigne américaine. Donc la vigne européenne, qui est la vigne cultivée qui donne le vin, ne connaissait pas cette petite bête. Elle est arrivée par des échanges de plantes intercontinentaux au 19e siècle.
Dans les années 1860.
La première mention, c'est Angleterre, 1863. Elle était probablement arrivée quelques années avant, disons autour de 1850. En 1913, le monde entier était conquis, puisqu'en 1913, la dernière région de vignobles qui lui résistait, la Californie, était envahie. Donc, en l'espace de 50 ans, d'un demi-siècle, non seulement elle a envahi l'Europe, mais elle a envahi l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Afrique du Sud, enfin, tout partout où il y avait de la vigne, il y avait le phylloxéra.
Quelle est la technique du phylloxéra ?
Lui, il vit sur les racines de la plante, il pompe la sève. Alors, sur les racines des vignes américaines, qui sont en équilibre avec ce végétarien, elles font une sorte de liège qui bouche les trous et puis ça se passe bien. On ne s'aperçoit même pas qu'il existe. La vigne européenne n'étant pas adaptée, elle faisait des nécroses qui fait que les racines mouraient, donc la plante mourait de faim puisqu'elle ne pouvait plus se nourrir en n'ayant plus de racines. Donc pendant les 30 premières années, ça a détruit quasiment tout le vignoble européen. 2,5 millions d'hectares de vignobles avant le phylloxéra, 800 000 hectares aujourd'hui. Plus des deux tiers du vignoble ont disparu. Ça s'est rétracté sur les régions de qualité, on va dire. Tous les vignobles périphériques qui donnaient un mauvais vin ont disparu. Elles auraient quand même disparu à cause du train qui facilitait les échanges. Ça n'aurait pas été aussi brutal. Et vous avez des régions entières. Moi, j'habite en Poitou-Charentes. Tout le nord du Poitou-Charentes où il y avait de la vigne a basculé. Et ils se sont mis à faire des élevages de vaches pour produire du lait, ce qui a eu deux effets. Le premier effet, c'est le fameux beurre d'appellation Charente-Poitou. Charente-Poitou, tradition du goût. Et le deuxième effet, c'est qu'ils ont, comme ça coûtait très cher, ils ont fait des laiteries coopératives. Qui dit laiterie coopérative dit association coopérative, qui se sont bien implantées dans la région, ce qui fait qu'un jour, Niort est devenue la capitale des mutuelles. Et donc, on voit un impact très fort d'un insecte de 0,4 mm, qui a changé vraiment la face des campagnes françaises dans l'espace de 50 ans.
Comment est-ce qu'on s'est relevé après le phylloxéra ? Il a fallu changer
de... Oui, parce qu'on a trouvé une solution élégante et très efficace. On a greffé les vignes françaises sur des vignes américaines. Donc comme c'est les racines uniquement qui sont touchées, elles sont résistantes et il n'y a plus de problème. On n'a pas besoin de lutte chimique contre le phylloxéra, on a juste besoin de greffer les vignes.
Vincent Albouy, quelques généralités sur les insectes. Les insectes n'ont pas d'os, par exemple.
Non, les insectes ont un squelette externe, une cuticule qui leur sert d'appui pour les muscles, ce qui fait que ça les oblige à grossir par paliers, ce qu'on appelle les mues. Ils doivent retirer leur peau, grossir d'un seul coup parce que la nouvelle peau est molle, et ensuite, hop, ça durcit, et là, ils ne peuvent plus grandir, donc il faudra qu'ils remuent ensuite pour grandir de nouveau.
Ils ont inventé l'aile.
Oui, les premiers animaux volants sont des insectes. Ensuite sont venus les reptiles. Ensuite sont venus les oiseaux. Et ensuite sont venus les mammifères avec les chauves-souris.
Et il y a 830 000 espèces d'insectes connues, c'est ça ?
Alors ça dépend des comptages, mais ça c'est un comptage de deux chercheurs du muséum qui qui ont fait 830 000 espèces connues. D'autres disent 1 million, enfin, c'est très difficile à estimer, mais en pourcentage, on sait que c'est à peu près la moitié des espèces vivantes connues, les trois quarts des animaux, et il en reste probablement 2 à 20 millions à découvrir.
Et vous, est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez autour des insectes? Est-ce qu'il y a, après le calicodome, est-ce qu'il y a un insecte que vous poursuivez, que vous
oui.
aimeriez voir?
Il y a toujours un insecte que je poursuis, toujours à cause de Fabre et de Réaumur. C'est une petite abeille, mais celle-là, elle découpe les pétales de coquelicot pour tapisser son nid avec ses pétales, et c'est dans une urne en pétales de coquelicot qu'elle amasse son miel et qu'elle pond son œuf. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de très délicat, cette abeille. J'ai regardé des millions et des millions de pétales et je n'ai jamais vu une découpure. Alors il y a des espèces plus grosses, ce sont les mégachiles, hein. Il y a des espèces plus grosses qui découpent les feuilles de rosier, notamment. Elles sont très courantes, j'en ai même vu dans Paris, donc c'est dire. J'en ai chez moi, j'ai mis un rosier sensible, entre guillemets, uniquement pour qu'elle puisse découper ce rosier. Mais celui-là, cette abeille découpeuse de fleurs de coquelicot. Je ne l'ai jamais vue et je projette depuis des années, mais j'ai toujours des choses à faire, j'arrive pas à bloquer le temps qu'il faudrait, mais de faire un séjour aux confins du Var et des Bouches-du-Rhône, où elle était encore fréquente au 19e siècle. J'ai accumulé la documentation et pour essayer de la retrouver. Maintenant, elle doit être cantonnée en région méditerranéenne, alors qu'à l'époque de Réaumur, elle se trouvait dans les blés autour de Paris.
Mais la retrouver, c'est pour le plaisir de la retrouver ou vous avez encore des choses à lui demander?
C'est pour le plaisir de la retrouver. Pour me dire, d'abord elle existe toujours, et puis pour me dire, j'ai réussi, je me suis accroché et j'ai réussi à la trouver. Mais la surprendre en train de découper son pétale de coquelicot, ça, et de la photographier comme ça, ce sera un plaisir.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Trouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard, prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes. Roulant joyeux vers ma maison, bon lieu où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève, sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ces gens, tous ces braves gens de la Varenne et de nos gens. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais, je suis qu'un petit Français, rien qu'un enfant, tout simplement.
Revoir Paris, c'était Benjamin Biolay, vous écoutez Les Aventuriers et vous êtes sur France Inter. Tout petit, Vincent Albouy s'intéressait déjà à la vie qui grouillait dans le jardin de ses parents en banlieue parisienne. La passion pour les insectes lui est venue vers l'âge de 10 ans quand il a découvert les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre. Et il a voulu voir de ses yeux ce que racontait ce grand scientifique du 19e siècle. Vincent Albouy, depuis le début, vous nous parlez de Jean-Henri Fabre. S'il n'avait pas existé, vous ne seriez pas ce que vous êtes.
Difficile à dire, je serais probablement différent. Si je me suis vraiment spécialisé sur les insectes, si les insectes m'ont autant passionné, c'est à la lecture des souvenirs entomologiques. J'ai d'autres lectures faites enfant qui m'ont intéressé, qui m'ont aussi aiguillé. Je pense à un livre très intéressant de Gérald de Rel qui s'appelle Féerie dans l'île, qui décrit ses aventures naturalistes dans l'île de Corfou dans les années 30. Si c'est les insectes en particulier, c'est vraiment Jean-Henri Fabre.
Qui était-il, Jean-Henri Fabre ?
Il est natif de l'Aveyron en 1823.
Donc on est au 19e.
Au 19e siècle. Il est fils de gens assez pauvres. Hein. Ses grands-parents étaient paysans. Son père a essayé de faire fortune dans le café, dans le commerce, mais n'a jamais réussi vraiment. Donc il est autodidacte, au sens où il a eu des études très courtes. Il a fait quelques années de collège à Rodez, une ou deux années à Toulouse, enfin voilà. Mais il a énormément appris de lui-même. Il a réussi en auditeur libre, en quelque sorte en candidat libre, à passer le concours de l'école normale d'Avignon. Donc il est devenu instituteur à 19 ans. Et ensuite, il a grimpé, il a passé les licences, les doctorats, il est devenu docteur en sciences naturelles et en botanique. Il a été professeur de lycée à Avignon pendant très longtemps.
Et c'était un grand scientifique qui était reconnu par ses pairs. Vous qui avez été au muséum, vous avez vu les collections de Jean-Henri Fabre ?
Les collections de Jean-Henri Fabre appartiennent au muséum, mais sont conservées à l'Armas, qui a été acheté par l'État français en 1921 et dont le muséum assure la gestion. Fabre n'était pas un très grand collectionneur d'insectes. Par contre, il avait un herbier monumental. Plus de 30 000 plantes. Et il s'est aussi passionné pour les champignons. Et comme il n'y a aucun moyen de garder les champignons frais, avec leur couleur fraîche, il a appris l'aquarelle et il a une 600 aquarelles de champignons. C'est vraiment extraordinaire. Et donc l'Armas est toujours visitable. C'est un endroit émouvant. Et la campagne autour, bien qu'elle ait quand même pas mal changé depuis l'époque de Fabre, permet encore d'aller à la rencontre d'une partie des insectes qu'il a décrit dans son livre.
Et comme vous, il avait ses préférences. On a parlé tout à l'heure calicodome. Lui aussi avait une passion pour cette petite abeille.
Voilà, lui, il avait quelques grands domaines de recherche. Il a beaucoup étudié les hyménoptères et notamment tout ce qui est retour au nid et enchaînement des comportements instinctifs. Je pense notamment aux guêpes qui paralysent leur proie. Il a travaillé par exemple sur le calicodome en relation épistolaire avec Darwin, en essayant de voir pourquoi il arrive à retrouver le nid même à 3 km de distance, en essayant de mettre un bout d'aiguille magnétique, des choses comme ça, enfin très intéressant. Il a aussi beaucoup étudié les bousiers, donc les insectes coprophages qui se nourrissent de bouses de crottin.
Racontez-nous mieux le bousier.
C'est un scarabée. Le scarabée sacré, c'est un bousier le plus connu. C'est le scarabée qui a été déifié par les Égyptiens parce que sa tête ressemble à une sorte de pelle avec des épines. Donc on a l'impression d'un demi-soleil qui émerge avec ses rayons de la ligne d'horizon. Et puis il roule une boule, ça faisait penser à la Terre pour les Égyptiens. Et puis comme en 28 jours, enfin il disait qu'en 28 jours de la boule sort un scarabée, il s'auto-engendrait. Et puis si on ouvre la boule, on voit une nymphe. Donc ça faisait penser à la momie humaine, donc c'était le symbole de la résurrection. Donc c'est pour ça qu'il l'avait déifié. Et ces bousiers ont un rôle important dans la fertilité des sols. En Australie, on a amené des vaches sans les bousiers. Rapidement, les prairies avaient été stérilisées par des bousses sèches qui séchaient à l'air libre. Il n'y avait personne pour les recycler. Et dans les années 1960, les scientifiques ont importé des bousiers d'Europe du Sud et d'Afrique de manière à recycler ces bouses. À ce moment-là, les pâturages ont retrouvé leur fertilité grâce à ces bousiers.
Qu'est-ce qu'il a découvert, Jean-Henri Fabre ?
Jean-Henri Fabre, ses principales études, c'est sur l'instinct, sur la reproduction des abeilles solitaires, notamment le fait que les femelles contrôlent le sexe de l'œuf au moment de la ponte. Il a aussi montré que les instincts, c'est un enchaînement d'actes qui sont liés les uns aux autres et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Après, il a dit des bêtises, Fabre. Notamment, il était anti-évolutionniste. Pour lui, l'homme ne pouvait pas descendre du singe. Un homme comme lui, si intelligent, ne pouvait pas descendre du singe. Donc il a dit des bêtises, mais les observations qu'il a faites, en général, sont de bonnes observations. Et maintenant, c'est dépassé, évidemment, on a tellement d'informations par rapport à son époque. Mais c'est lui le premier qui a donc décrit les phéromones, qui maintenant sont utilisés en agriculture, dans des pièges, pour capturer les papillons de nuit.
Pour vous, Vincent Albouy, ces petites choses gouvernent le monde, les insectes sont très importants, mais comment les protéger? Vous nous dites depuis le début de l'émission qu'on sent bien que des populations s'effondrent, des populations sont en danger, certaines même sont protégées. Comment aider les insectes dans notre monde du XXIe siècle?
C'est compliqué, je n'ai pas de solution, parce que malheureusement c'est un ensemble de conditions. Notre société est de moins en moins favorable aux insectes, parce que les milieux naturels ou semi-naturels régressent. Quand vous avez dans une plaine comme la Beauce des champs qui font plus de 100 hectares, que les labours vont carrément jusqu'au bord de la route, qu'il n'y a plus d'herbes sauvages qui poussent au bord des routes parce que c'est broyé par des machines, qu'on arrive directement dans des bois sans transition, il n'y a plus de place pour les insectes. Il y a le problème des pesticides, qui est un problème très controversé, mais on ne peut pas impunément déverser des centaines de milliers de tonnes de produits toxiques dans la nature pendant 60 ans sans qu'il y ait des effets secondaires. Et là, même en région méditerranéenne, même dans la garrigue qui n'est pas traitée, comme ces molécules circulent, ça a des effets. Donc je pense que ce sera quand l'homme prendra conscience de ses effets sur la biosphère et qu'il changera ses habitudes que ça pourra évoluer. Pour l'instant, les insectes, la disparition des insectes n'est qu'un des signes parmi d'autres. Malheureusement, il y a peu de signes favorables pour que la situation change rapidement.
Mais vous, dans votre jardin, qu'est-ce que vous faites?
Moi, dans mon jardin, je n'utilise pas de pesticides, je mets des nichoirs. Évidemment, qui me permettent de les observer plus que de les loger, parce que j'ai un jardin semi-naturel avec beaucoup d'espace où je laisse la flore sauvage s'exprimer, je laisse du bois mort, je laisse des tas de sable, des tas de pierres. Donc, ils ont ce qu'il faut naturellement, les nichoirs sont en plus. Mais je suis dans la région du Cognac, donc dans une région où il y a énormément de traitements pesticides, et il y a beaucoup moins d'insectes aujourd'hui dans mon jardin qu'il y en avait il y a 25 ans. Donc j'ai beau les aider, je ne peux pas empêcher. Ce n'est pas individuellement qu'on pourra empêcher le problème. C'est vraiment une prise de conscience de l'homme en tant qu'espèce, de la société.
Allez, pour terminer, une belle histoire d'insectes. Enfin, belle si vous voulez.
Oui, comme il y a des gens phobiques des insectes, là je vais m'adresser aux phobiques des araignées.
Il y en a.
Il faut qu'ils soutiennent les insectes, puisque le pire ennemi de la mygale, c'est un insecte, une guêpe qui s'appelle... le pompil, enfin, qui fait partie de la famille des pompils. Et ce sont des guêpes spécialisées dans la paralysie des araignées pour nourrir leurs larves. Et
Comment font-elles ?
Par exemple, il y a une espèce très courante dans le sud des États-Unis qui s'appelle le faucon des tarentules, qui donc détecte les mygales dans leur terrier, puisque les mygales vivent dans des terriers, arrive à les faire sortir du terrier, on ne sait pas trop comment, et alors que la mygale est tout à fait capable de les tuer, de les écraser, de les consommer, elle est comme inhibée en face d'elle, elle ne sait pas trop se défendre, et la guêpe arrive à les paralyser, ces mygales. Ensuite, elles peuvent couper leurs pattes pour pas que ça remue trop, et elles les enterrent vivantes, soit dans un terrier creusé par elles-mêmes, soit dans le propre terrier de la mygale, elles pondent un œuf dessus, et la larve va se développer lentement à l'intérieur de la tarentule, à l'intérieur de la mygale, qui finira par mourir, et en sortira une guêpe. Donc vous voyez, vous avez peur des araignées, soutenez les insectes.
Vincent Albouy, je vous avais demandé une belle histoire.
Mais c'est une très belle histoire pour les phobiques des araignées.
Pour aller plus loin, Vincent Albouy vient de publier « Histoire remarquable des insectes » aux éditions de La Chaux et Niesley. Vous pouvez podcaster bien sûr cette émission ou la réécouter sur le site de France Inter. Merci à Fabrice Lègle, Christiane Alain Favre et Jean-Baptiste Audibert qui ont participé à cette émission. Merci à David Federman à la technique ce soir. Dans un instant, on retrouve les récits d'Isabelle Autissier. Ils nous feront découvrir un insecte qui aime la mer. Mais avant, si on écoutait les Beatles.
comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right.